Placebo, une émission proposée par Emmanuel Klein.
Bonjour à tous et bienvenue dans Oxebo. On va causer bande dessinée pendant à peine 10 minutes. Émission un peu écourtée parce qu'on a eu du mal à joindre notre invité. Bonjour Fred Campoy.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien?
On entend super bien. Vous êtes en duplex de Pau. Ça nous envoie du soleil et des vacances. Voilà, du sud. Nous, on est dans un studio parisien tout fermé, mais on est bien content pour vous que vous preniez l'air. Et surtout, on voulait fêter avec vous la sortie du tome 4 de votre saga consacrée à Alexandra David-Néel, qui est parue aux éditions Bambou. C'est du grand angle. C'est sorti aujourd'hui, hein, le tome 4. Ça fait 4 ans que vous vivez avec cette femme-là. Vous écrivez sa vie. La première question, évidemment, que j'ai envie de vous poser, c'est depuis quand vous la connaissez? Depuis quand vous vous intéressez à son œuvre? Pas seulement depuis 2016 que le premier volume est sorti, forcément.
Non, ça fait ça doit faire une douzaine d'années à peu près que j'ai découvert Alexandra David-Néel. C'est ma mère en fait qui lit beaucoup de biographies, qui a toujours lu, qui me dit un jour, tiens, je viens de lire un livre sur une dame, une femme incroyable qui a parcouru le Tibet, la Chine, etc. Et elle m'a sorti un gros livre illustré qu'elle avait pris à la bibliothèque. Et du coup, elle me prête des livres de temps en temps. Et je suis rentré chez moi, j'ai commencé à le lire. Et je l'ai pas quitté, je l'ai dévoré en deux nuits, quoi. Enfin, mais c'était tellement passionnant que je suis tombé amoureux du personnage de suite, quoi.
Mais du coup, vous êtes allé voir un éditeur en disant, moi j'ai envie de raconter ça en bande dessinée, de raconter ça, sa vie extraordinaire. Hein. Rappelons que c'est la femme qui a découvert la première femme et la première européenne même à être entrée au Tibet, en cachette évidemment.
Ouais, elle est rentrée au Tibet, donc à l'époque où le Tibet était interdit, là c'était en 1924, le Tibet était interdit aux étrangers, donc aucun étranger pouvait rentrer. Et elle, ça faisait quelques années qu'elle était dans l'Himalaya, donc elle parlait couramment tibétain, elle avait appris dans les monastères le bouddhisme, le tibétain et tout ça. Et donc elle voulait absolument aller à Lhasa, et du coup elle a eu l'idée de se déguiser en mendiante. Elle était accompagnée d'un jeune moine, qui était censé être son fils, et du coup ils ont traversé tout le Tibet... pendant des mois, en plein hiver d'ailleurs, pour atteindre Lhasa. Donc c'est effectivement la toute première européenne à être rentrée, donc à la fois au Tibet et puis à Lhasa. Et donc moi, quand j'ai lu ça, et puis toute sa vie, j'ai de suite pensé à faire une BD, évidemment. Mais au départ, sa vie est tellement riche, vu qu'elle a en plus vécu 100 ans.
101 ans même.
101 ans, elle a parcouru la vie, elle a fait vraiment plein de trucs chouettes. Ça me paraissait presque un trop gros projet. Trop d'albums, trop de trucs à raconter, une sorte de Tintin au féminin en fait. Donc j'avais un peu laissé tomber. Et donc il y a à peu près 7-8 ans, j'ai lu le livre de Marie-Madeleine Perronnet, qui est en fait la gouvernante, on va dire, la secrétaire particulière d'Alexandra.
Oh, elle faisait tout, hein. La cuisine et l'assistanat, absolument dans tous les domaines.
Faisait tout en fait. Ouais. Et du coup, elle a vécu avec elle 10 ans, les 10 dernières années de sa vie. Et elle a écrit un bouquin sur cette expérience des 10 ans avec Alexandra. Et ce bouquin-là est génial parce qu'il est à la fois drôle, très émouvant. On a le quotidien de ces deux femmes et puis elle raconte quand même quelques voyages. Et c'est ce bouquin-là qui m'a donné l'envie et l'idée surtout de faire la BD. Parce que là, c'est un livre qui fait peut-être 200 pages. Et on a en 200 pages à la fois la fin de vie, en gros l'histoire... En gros, tout ce qu'il faut savoir sur elle, on l'a à peu près sur 200 pages de bouquin, ce qui équivaut à, on va dire, deux BD. Moi, j'en ai fait 4 pour vraiment faire le tour du personnage. Enfin, on n'a jamais fait le tour avec elle, mais disons avoir quand même quelques anecdotes croustillantes sur sa vie. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais là, c'est déjà pas mal, quoi.
Mais c'est la question que vous supposez, parce qu'effectivement, on alterne entre les périodes contemporaines, on va dire, avec donc Marie-Madeleine Perronnet qui raconte la fin de la vie d'Alexandra Neel. Évidemment, régulièrement, on revient en arrière pour raconter ses périples et ses grandes aventures. Rappelons qu'au départ, vous disiez qu'elle avait, elle avait découvert, elle voulait l'être quand elle était dans l'Himalaya. Cela dit, elle a quand même découvert le bouddhisme d'abord à Paris, hein, au musée Guimet. Et c'est cette passion pour le bouddhisme qui l'a emmenée jusque sur ces terres-là, parce qu'elle voulait découvrir les textes anciens. Elle a appris le sanskrit pour découvrir les textes dans leur langue d'origine. Enfin, vraiment, c'était une puriste, j'ai envie de dire. Elle voulait savoir aller à la moelle et savoir comment ça fonctionne le bouddhisme. Et vraiment, c'est la religion d'abord qui l'a intéressée.
Ben, en fait, tout à fait. C'est plus, on va dire, une philosophie qu'une religion, même si ça peut s'apparenter à une religion parfois. Mais elle, c'est à Paris, au musée Guimet, qu'elle a découvert donc, le bouddhisme, au départ dans les livres. Mais il y avait déjà des gens qui avaient un peu été vers le Tibet, donc qui racontaient plein de choses. Il y avait des orientalistes. Mais aucun n'avait vraiment vécu dans les monastères, n'avait vraiment passé des années parmi eux. Donc ça, ça lui manquait d'avoir un vrai témoignage de vécu vraiment interne dans un monastère, par exemple. Et donc elle s'est dit, ben, c'est moi qui le ferai, tant pis, même si les femmes presque n'avaient pas trop le droit de le faire, mais comme elle était quand même anticonformiste et tout, elle a décidé de partir, elle, toute seule aux sources du bouddhisme et d'aller étudier vraiment dans les monastères, parcourir les montagnes, aller voir les sages qui sont cachés dans les montagnes et tout, d'apprendre déjà le tibétain, écrit, parler, le sanskrit aussi d'ailleurs, d'étudier les textes, et elle a ramené en France, après là on a au musée Guimet, mais c'est surtout en fait au musée Guimet, il y a plus de 300 livres tibétains qu'elle a ramenés de l'Himalaya, c'est des vieux livres qui ont des centaines d'années, et qui sont très très rares, et qu'elle a elle-même, tous lus, traduits, étudiés. Donc voilà, elle voulait aller au fond des choses et aller à la source des croyances là-bas bouddhistes.
C'est ça, parce qu'elle, en fait, à la fin de sa vie, elle a légué. Autant le musée Guimet, on l'a dit tout à l'heure, lui avait appris, elle a découvert le bouddhisme au musée Guimet, et ensuite, le retour de ses voyages, elle a légué au musée Guimet, non seulement des livres, mais aussi des objets, enfin, toutes choses qu'elle avait rapportées de ses voyages. Parce qu'elle est allée plusieurs fois.
Oui. Parler de Guimet ou des voyages ?
Non, des voyages, enfin au Tibet.
Les voyages, alors le Tibet, elle a été surtout... Alors, il y a son grand voyage au Tibet, enfin, on va dire, en région himalayenne. C'est donc entre 1910 et 1925, il y a 15 ans d'un gros voyage qu'elle a fait que en Himalaya, Tibet, Chine, Népal, Inde et tout ça. Et ensuite, elle est revenue quelques années après pour encore 10-15 ans en Chine. En plus c'était la guerre sino-japonaise et tout ça, mais pour le coup elle voulait revenir aux sources encore plus loin que le bouddhisme, qui sont les sources du taoïsme. En fait au Tibet, le bouddhisme indien s'est greffé sur l'ancienne religion chamanique qui était on appelle les bun, et c'est une religion qui s'apparente beaucoup au taoïsme en fait, chinois très ancien, et donc elle a voulu percer encore le secret et aller revenir vraiment aux sources les plus loin possible du bouddhisme. Donc ça amène au taoïsme chinois. Et voilà, elle y tenait absolument, elle a étudié toute sa vie là-dessus. Elle était elle-même bouddhiste, hein, on peut dire.
Oui.
Même si ça ne se sent pas toujours dans son comportement. C'est pas le Dalai Lama, quoi, vous voyez.
Non, mais elle l'a rencontré. Elle a rencontré le 13e. Le 14e est venu chez elle, donc dans le sud de la France, hein, à Digne, où sa maison est devenue musée depuis. Mais tout ça est très, très bien raconté. C'est-à-dire qu'on parle d'une bande dessinée. C'est-à-dire qu'il a fallu mettre en image tout ça. Évidemment, les voyages, les images, vous avez été constitué, j'imagine, une documentation faramineuse, parce qu'il fallait montrer les endroits qu'elle a vus, les personnages réels, forcément, qu'elle a croisés. Tout ça est très, très riche aussi graphiquement.
Ben, j'ai la chance de travailler en fait conjointement avec le musée Alexandre Lavinel, qui est sa maison à elle à Digne, à Les-Bains, en France. Et du coup, elle-même prenait énormément de photos. Elle était très précurseur de plein de trucs. Et elle amenait toujours des appareils photo au dernier cri. Et ils ont déjà, eux, des milliers de clichés qu'elle a pris à l'époque là-bas et tout. Ça, plus d'autres clichés, d'autres personnes, des Anglais entre autres, de l'armée anglaise qui était là-bas aussi. On a en fait on a une grosse data, on va dire, de données sur l'époque Tibet, hein, tout ça. Des photos, on en a plein. Et les personnages aussi, le Dalai Lama, le 13e, on a des photos. À peu près toutes les personnes qu'elle a rencontrées, on a quand même des visuels photographiques, donc ça va. Et puis, alors, il m'a peut-être manqué 2-3 paysages, mais... Bon, avec 2-3 films aussi, ou alors 2-3 recherches internet, on arrive à se débrouiller. Mais disons qu'au musée, ils ont déjà les 3/4 des infos, quoi.
Non, mais c'est totalement fabuleux. Moi, j'ai adoré vraiment. Alors, il y a 4 tomes, ça fait près de 400 pages de bande dessinée, avec à chaque fois un petit dossier historique à la fin. Enfin, vraiment, c'est très, très complet. Vraiment, je vous félicite, c'est très bien fait. Donc, c'est le 4e volume, hein, qui sort aujourd'hui, même, 24 juin, on est en direct. Donc, on peut évidemment relire, du coup, la tétralogie complète, donc signée par Fred Compoy, donc, qui a signé le scénario et le dessin. Merci d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Et puis, je signale également Mathieu Blanchot, hein, qui a co-dessiné avec vous. On n'a plus le temps d'expliquer pourquoi et comment, mais bon. Merci beaucoup Fred Compoy pour ce direct. Donc j'ai évidemment mis toutes les informations sur la page Auxebo sur le site de Fréquence Protestante, où on pourra réécouter cette émission en podcast. Merci Arnaud de l'avoir réalisé. À très bientôt, à la semaine prochaine évidemment. Salut.